Vous écoutez Europe 1, il est 13h.
Europe 1, 13h.
Céline Géraud.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue à bord. Europe 1 13h, c'est votre rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Dans ce journal, le gérant d'une boutique Geox à Strasbourg menacé de mort pour avoir recalé une intérimaire voilée qui venait travailler. Tous les détails sur cette affaire dans quelques instants. Deux jours après la mort du jeune Zakaria, 15 ans, dans le quartier de la Monnaie à Romans-sur-Isère, quatre personnes en garde à vue, dont un père et ses deux fils. Le point sur l'enquête. L'actualité, c'est aussi le gouvernement qui veut mettre fin au logement social à vie pour certains ménages. Les explications dans ce journal. Un espoir pour les 4 millions de personnes qui souffrent d'asthme en France. Des chercheurs du CNRS ont identifié les molécules responsables de cette inflammation. Et puis, 4 ans après la crise sanitaire, beaucoup de familles ont voulu changer de vie. Mais pour aller où? Mer ou campagne? Eh bien, la réponse à la fin de ce journal. 13h01, Géraldine Hamon, la tendance météo pour l'après-midi.
Eh bien, le beau temps se généralise avec un soleil qui brille presque partout. Des températures estivales, 19 à 25 degrés sur la moitié nord, 23 à 27 degrés au sud, jusqu'à 29 degrés en Provence. Météo complète sur Europe 1 à la fin de ce journal.
Europe 1.
Et on ouvre cette Europe 1 13h avec ce gérant d'un magasin Geox à Strasbourg, menacé de mort et accusé d'islamophobie. La raison, il a refoulé une intérimaire qui s'est présentée pour travailler dans son magasin voilé. La jeune femme a filmé la scène, elle a mise en ligne. La vidéo a été vue des centaines de milliers de fois. Mélanie Fachin, vous êtes la correspondante Europe 1 à Strasbourg et vous êtes devant cette boutique qui reste fermée depuis hier.
Alors non, pas exactement. En fait, la boutique, elle a rouvert ici. Donc hier, oui, cette jeune femme se présente dans la boutique Geox du centre de Strasbourg. Elle doit venir travailler comme vendeuse durant quelques jours. Le manager lui demande de retirer son voile. Elle refuse. C'est le début de la polémique.
Vous n'avez pas la tenue adéquate, tout simplement.
J'ai le voile, faut le dire. Faut passer par les mots.
Ah,
exactement.
Oui, mais parce que on est en France, madame. C'est dans la loi. Moi, en magasin...
Liberté, égalité, fraternité. Un pays laïque.
En pays laïque.
Voilà, sur mon contrat, c'est pas écrit que je ne dois pas mettre le voile.
Je connais ça, je sais ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de me faire passer pour ce que je ne suis pas. Et ça, je n'accepte pas.
Face au déferlement de haine sur les réseaux sociaux, aux menaces de mort même, le manager a effectivement fermé prématurément sa boutique hier. Mais ce matin, même si lui n'était pas là, le magasin a rouvert, je suis devant. Il y a deux vigiles, un dehors, un dedans et des policiers garés juste en face. Selon nos informations, il est clairement indiqué dans le règlement de Geox France l'interdiction de venir travailler tête couverte. Cet intérimaire était déjà venu travailler plusieurs fois ici, sans voile. Il est donc probable qu'elle connaissait le règlement.
Mélina Fachin, en direct de Strasbourg pour Europe 1, devant cette boutique Geox qui a donc rouvert aujourd'hui. Alors imposer une tenue vestimentaire ou interdire le port de certains vêtements dans le secteur du commerce, que dit la loi? Baptiste Morin, le gérant du magasin, avait-il le droit de refouler cet intérimaire?
Il semble que oui, car depuis 2016, la loi de travail prévoit la possibilité de faire figurer dans un règlement intérieur le principe de neutralité. Ce principe peut interdire le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail. Étienne Pujol est avocat au barreau de Paris.
Le magasin en question accueille du public par construction, puisque c'est du commerce de détail. Mais d'une manière générale, dans les entreprises, quand il n'y a pas de contact avec le public, il est admis maintenant que l'employeur décide d'appliquer le principe de neutralité, c'est-à-dire demande à l'ensemble de ses salariés de ne pas exprimer publiquement par leur comportement ou par le port de signes ostentatoires religieux, leur appartenance religieuse.
Dans ce cas précis, la jeune femme est embauchée par l'agence d'intérim pour travailler dans ce magasin Geox. Il faudra donc démontrer soit que cette agence d'intérim possède un règlement intérieur, soit que la jeune femme avait connaissance des règles appliquées dans le magasin. D'après ce que vient de nous dire Mélina, c'était bien le cas.
Alors Baptiste Morin, il y a une question autour du droit du travail, mais aussi autour du droit à l'image.
Oui, la jeune femme a filmé le gérant sans son accord et elle a diffusé la vidéo sur les réseaux sociaux sans l'accord du gérant là non plus. Et surtout avec une intention, souligne Étienne Pujol.
C'est pas le temps le fait de l'enregistrer et diffuser sur les réseaux sociaux, c'est de le faire avec la claire intention de nuire à ce gérant qui a de fortes chances d'être sanctionné au pénal contre cette jeune fille. Oui.
La loi prévoit dans ce cas des peines de prison, mais c'est assez rare qu'elles soient appliquées, et surtout une amende qui est de plusieurs milliers d'euros.
Baptiste Morin, le chef du service économie d'Europe 1. Alors cette nouvelle affaire à Strasbourg fait aussi réagir la classe politique. Alexandre Chauveau, la droite parle d'une offensive islamiste contre la société et fait le lien avec d'autres actualités récentes.
Oui, une jeune fille agressée pour non-respect du ramadan près de Strasbourg, un homme poignardé à mort pour avoir bu du rosé à Bordeaux ou encore le meurtre du jeune Chemseddine à Viry-Châtillon pour avoir parlé avec la sœur de ses agresseurs. Éric Zemmour parle d'un djihad du quotidien permis selon lui par l'islamisation de la société. Autre réaction à propos de Geox, celle de l'avocat Thibaut de Montbrial. Il dénonce sur X le cycle provocation, victimisation, ciblage des frères musulmans et toujours le collectif contre l'islamophobie en Europe, ex-CCIF à la manœuvre, ajoute-t-il. L'inquiétude gagne également les rangs de la majorité. Maud Bréjon, invitée ce matin de la grande interview d'Anthony Favalli sur Europe 1.
Pendant trop longtemps, une partie de la classe politique, c'est encore d'ailleurs en partie le cas aujourd'hui, et je pense notamment à la France Insoumise, a refusé de qualifier ce qui se passait. Il y a aujourd'hui un islamisme en France qui essaie de mettre des coups de canif dans le pacte républicain. Je pense que nommer les choses, c'est déjà un pas en avant très important. Et peut-être qu'on ne l'a pas suffisamment fait par le passé.
Voilà, et pas de réaction à ce stade de la France Insoumise ni du gouvernement.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Et pendant ce temps-là, deux jours après la mort du jeune Zakaria, 15 ans, dans le quartier de la Monnaie à Romans-sur-Isère, quatre suspects ont été placés en garde à vue. L'enquête a été requalifiée par le parquet en meurtre avec préméditation. Jean-Luc Boujon, vous êtes à Romans-sur-Isère pour Europe 1. Le scénario d'une expédition familiale d'un autre quartier de la ville vers celui de la Monnaie pour régler ce différend se dessine. Hein.
Oui, effectivement, le différend aurait eu lieu il y a quelques jours et aurait opposé le plus jeune des fils de cette famille, un mineur, à un jeune du quartier de la Monnaie. Mais ensuite, c'est le père de famille qui va s'en mêler et qui va organiser une forme d'expédition punitive. Mardi soir, il décide donc de se rendre dans le quartier de la Monnaie avec ses deux fils, incitant le plus jeune à affronter son adversaire et à le corriger. La bagarre commence sous les yeux de plusieurs habitants, dont le jeune Zakaria, 15 ans, qui est d'abord spectateur, puis qui tente de s'interposer pour faire cesser l'altercation. C'est là qu'il reçoit un coup de couteau asséné par le fils aîné âgé de 27 ans. Zakaria qui décède quelques minutes plus tard. Pendant ce temps, le père assure la fuite de toute la famille. Mokhtar, 73 ans, habite Romans. Il connaît cet homme, ce père de famille, et ne comprend pas ce qui a pu se passer.
Je le connais, c'est un père, il a une famille, il a perdu sa femme il y a un moment, il a laissé des gamins, il vit, il a une maison, il est propriétaire d'une maison et tout. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête.
Alors ce père de famille qui s'est rendu hier soir a donc été placé en garde à vue, son fils mineur également, ainsi que son autre fils de 27 ans qui est l'auteur présumé du coup de couteau mortel.
Jean-Luc Boujon en direct de Romans-sur-Isère pour Europe 1. Et en bref, je vous parle de ce refus d'obtempérer qui aurait pu virer au drame. Un policier traîné sur plusieurs mètres, deux autres renversés volontairement. Au total, 9 forces de l'ordre ont été blessées après une course-poursuite qui a débuté en Essonne pour s'achever dans le Val-de-Marne. Les trois auteurs ont été interpellés. 13h08 dans ce journal, dans quelques instants, les menaces de représailles de l'Iran contre Israël, la fin du logement social à vie pour les locataires aux revenus trop élevés, et puis un espoir pour les asthmatiques. Et enfin, où est-ce que vous êtes allé vous installer après le Covid? Eh bien, la réponse dans une poignée de secondes.
Céline Giraud vous informe de 13h à 14h sur Europe 1. Europe 1 13h. Merci de nous rejoindre sur Europe 1. Il est 13h10, la suite du journal avec vous, Céline Giraud.
Mais dans cette Europe 1 13h, je vous parle de ces menaces de représailles de l'Iran contre Israël qui font monter la tension au Proche-Orient. Et ce, après une série d'attaques menées par l'État hébreu contre les gardiens de la Révolution. Sébastien Lebelzig, vous êtes le spécialiste des questions internationales à Europe 1. Washington et Paris appellent leurs ressortissants dans la région à la plus grande prudence.
Oui, le ministre français des Affaires étrangères recommande même aux Français de ne pas se rendre dans les jours qui viennent en Iran, au Liban et en Israël. Il rappelle également les familles des diplomates français à Téhéran, c'est dire le degré de tension, hein, alors que pour la première fois l'État hébreu redoute que la République islamique tire à partir de son territoire des missiles balistiques ou des drones suicides vers Israël. Jusqu'à présent, l'Iran actionnait plutôt ses alliés, hein, le Hezbollah libanais, les rebelles houthis au Yémen ou des milices chiites, hein, syriennes ou irakiennes. irakienne pour mener des attaques contre Israël et éviter ainsi une confrontation directe. Mais une série d'opérations de l'armée israélienne visant directement les gardiens de la révolution ces dernières semaines a changé les règles du jeu. Si l'on en juge en tout cas le flot de menaces, de représailles lancées depuis Téhéran. Et c'est surtout le risque d'escalade qui inquiète, puisque Tsahal dispose de toute une panoplie d'armes qui pourraient être utilisées contre l'Iran, y compris en visant des sites nucléaires. Et atout essentiel pour Israël, le soutien américain, soutien à toute épreuve en cas d'agression de l'Iran, a redit Joe Biden.
Sébastien Lebelzik, 13h12, on se pose cette question maintenant. Est-ce la fin du logement social à vie? Est-ce normal que les familles dont les revenus ont augmenté continuent d'en bénéficier? Christophe Bordet, vous êtes le spécialiste logement européen. Alors on est en pleine pénurie de logements sociaux, on en dénombre environ 5 millions en France, et le gouvernement veut mettre le holà.
Oui, dans le collimateur du ministre du Logement, les 8% de locataires HLM qui dépassent les plafonds de ressources, seuls 3% d'entre eux sont en réalité assujettis à ce supplément de loyer. Ceux dont les revenus dépassent 150% des plafonds doivent impérativement quitter les lieux. Le problème, c'est qu'en payant une majoration de loyer, la plupart ne libèrent pas leur appartement au profit d'autres ménages qui en auraient peut-être besoin. Ce que le ministre Kasbarian oublie de dire, c'est que ces locataires plus aisés participent au financement du logement social. Si demain, ils ne sont plus là, pas certain que la situation des HLM s'améliore. La mesure est en tout cas au menu du projet de loi classe moyenne présenté en Conseil des ministres début mai.
Les précisions de Christophe Bordet. Dans cet Europe 1 13h, je vous parle maintenant de cet espoir pour les 17 millions de personnes allergiques. Alors avec la circulation massive du pollen les dernières semaines, les asthmatiques souffrent particulièrement. Yasmina Katou, des chercheurs français du CNRS ont identifié l'une des molécules responsables des allergies respiratoires et de l'asthme.
La TL1A, c'est le nom de cette molécule qui tapisse les poumons. La molécule fait partie d'une famille en particulier, les alarmines. Si elle porte ce nom, c'est parce qu'en présence d'allergènes, elle s'alarme pour activer le système immunitaire, explique Jean-Philippe Girard, directeur de recherche INSERM et co-auteur de l'étude.
Le poumon produit de base chez vous, chez moi, de ces molécules qui sont prêtes à être libérées, lancer le signal d'alarme. Ce côté alarme, c'est ça qui fait que ça déclenche toute l'inflammation. Chez les asthmatiques, ça fait des exacerbations de l'asthme. Ils peuvent aller à l'hôpital, il y en a qui peuvent décéder, voilà, suivant la gravité de la maladie.
D'autant que parmi les 4 millions d'asthmatiques, 1 sur 2 ne répond pas au traitement classique et risque une réaction allergique très forte. Grâce à la découverte de cette molécule, de nouveaux traitements à base d'anticorps monoclonaux pourraient être créés.
Les anticorps contre les alarmines suscitent beaucoup d'intérêt parce que comme les alarmines sont tout au début de la cascade de réactions inflammatoires, en bloquant les alarmines, on bloque tout en fait.
Le chercheur espère que les tout premiers essais cliniques seront lancés d'ici 5 ans.
Yasmina Katou, spécialiste santé à Europe 1.
Et à 13h14 sur Europe 1, Céline, vous nous parlez de cette étude de la Fondation Jean Jaurès et de l'IFOP sur les destinations privilégiées par les familles après la crise sanitaire.
Oui, souvenez-vous, il y a 4 ans déjà, le Covid, le confinement au vert, le télétravail, ces envies d'ailleurs. Vous avez d'ailleurs peut-être décidé de changer d'air après la crise pour vous installer durablement loin des villes. Margot Faudéré, quelle a été la destination privilégiée par ces candidats à l'Exode ?
Eh bien, c'est le littoral, Céline, en particulier la côte atlantique, comme le Morbihan ou la Vendée, la côte méditerranéenne aussi, dans une moindre mesure. Finalement, ce n'est pas très surprenant. Rappelez-vous, pendant la pandémie, beaucoup de Français ont passé leur confinement sur le littoral. Et selon les auteurs de l'étude, ils y sont tout simplement restés. Ce sont des régions qui ont toujours été très plébiscitées, estime Sylvain Manternac, géographe et co-auteur du rapport.
Quand on regarde en termes de timing, on fait l'évolution de la démographie avant le Covid et après le Covid. Tout l'Ouest et les côtes bretonnes attiraient déjà beaucoup avant le Covid. C'est vrai que c'est pas quelque chose de tout à fait nouveau. C'est un secteur géographique qui attire depuis de nombreuses années, en fait.
Alors, parmi les amoureux de ces littoraux, il y a toujours eu des retraités aisés et des professions libérales. Mais depuis le Covid, il y a aussi des enseignants et des cadres télétravailleurs qui viennent profiter de ces villes proches de la mer et acheter des logements plus confortables qu'en ville, plus grands aussi. Mécaniquement, ces arrivées ont fait exploser le marché de l'immobilier sur les littoraux. À Arcachon, le prix d'une maison a augmenté de 39% entre 2019 et 2024. À Biarritz, il a même augmenté de 50%. Le littoral, c'est bien Céline, mais ça a un coût.
Merci Margot Faudéré pour toutes ces précisions du service économie d'Europe 1. 13h16, un point sur les marchés avec vous Didier Hameau de boursier.com. Et un marché en hausse aujourd'hui.
Oui, ça se termine bien la semaine. En hausse de 0,8% aujourd'hui, le CAC 40, 8 085 points. Le marché a pris bonne note des espoirs de baisse de taux d'intérêt de la part de la Banque Centrale Européenne, sans doute à partir du mois de juin. Autre élément très favorable, le pétrole qui grimpe proche des 91$ le baril, au plus haut depuis 6 mois. De quoi propulser le titre Total Energy au sommet, en hausse de 2%, 69€, record historique pour Total Energy. Ailleurs, ça monte un petit peu partout. Hein. La bourse de Francfort plus 0,8%, Madrid plus 1%, Bruxelles plus 1,2%, le CAC 40 en hausse de 0,8%, 8085 points.
Merci Didier Hameau de boursier.com et rendez-vous ce soir à 19h dans le journal d'Hélène Zélani. 13h17, la météo avec vous maintenant, Géraldine Hamon. Oh soleil, soleil. Oui. Je chante moins bien que Pascal Praud, mais le beau temps se généralise. Hein.
Et avec notamment des températures en hausse, puisqu'il fera 15 degrés à Boulogne-sur-Mer, 19 degrés à Brest ou Dunkerque, 20 degrés à Quimper, 21 à Nice et Ajaccio, 23 degrés à Caen et Lyon, il fera 24 à Nantes et Biarritz, 25 à Marseille, Paris et Bordeaux, jusqu'à 28 degrés à Nîmes. Pour le ciel maintenant, vous l'avez compris, les conditions sont anticycloniques. Ce vendredi après-midi est calme et globalement bien ensoleillé. Notez seulement que des frontières du nord jusqu'au centre Val-de-Loire, le temps est légèrement nuageux, mais le ciel va tout de même se dégager au cours de l'après-midi. Demain, eh bien, le soleil va s'imposer. On va atteindre les 30 degrés dans le sud. Sur la moitié nord, ce sera aussi ensoleillé et chaud, à part la Bretagne où ce sera un petit peu plus voilé. Et au sud, la journée s'annonce quasi estivale avec un très beau soleil généreux. On ressort des lunettes de soleil.
Bah, bonne nouvelle, c'est chouette. Merci beaucoup Géraldine Hamon pour ces bonnes énergies. Dans quelques instants, évidemment, on reste ensemble. Europe 1 décrypte pour vous et avec vous, bien sûr, l'actualité. Nous serons avec le magistrat honoraire Philippe Bilger et l'essayiste Paul Melun. Alors, on va parler de cet intérimaire, hein, voilé et refoulé dans une boutique à Strasbourg, de cette attaque au couteau à Bordeaux contre deux Algériens qui consommaient de l'alcool. Mais aussi, pourquoi pas, la fin du logement social à vie. Et c'est Emmanuel Macron qui ferme l'hypothèse d'une augmentation des impôts. Tout ça avec vous au 01 80 20 39 21.
Bon début d'après-midi avec Céline Giraud de 13h à 14h sur Europe 1 tout de suite. Europe 1 13h. Il est 13h21, bienvenue sur Europe 1. Vous écoutez Céline Giraud jusqu'à 14h et avec vous pour décrypter l'actualité, Céline, Philippe Bilger, magistrat honoraire et président de l'Institut de la Parole, et l'écrivain essayiste Paul Melun.
Bonjour les amis, bienvenue à bord.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver.
Un grand plaisir de revenir.
C'est vendredi, mais l'actualité ne s'arrête jamais, évidemment, et on va dérouler avec vous les faits marquants de cette journée. On va parler, bien sûr, pour commencer, de ce gérant du magasin Geox, qui a refoulé une jeune femme intérimaire qui s'est présentée voilée pour travailler dans sa boutique. La jeune femme a filmé toute la séquence et l'a diffusée ensuite sur les réseaux sociaux. Menacée de mort, accusée d'islamophobie, le gérant a préféré fermer son magasin pour le rouvrir finalement ce matin. Alors avant de vous entendre, on va écouter un extrait de cette séquence.
Vous n'avez pas la tenue adéquate, tout simplement.
J'ai le voile, faut le dire, faut passer par les mots, exactement.
Oui, mais parce que on est en France, madame. C'est dans la loi. Moi, en magasin...
Liberté, égalité, fraternité. Un pays laïque.
En pays laïque.
Voilà, donc, sur mon contrat, c'est pas écrit que je ne dois pas mettre le voile.
Je connais ça, je sais ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de me faire passer pour ce que je ne suis pas. Et ça, je n'accepte pas.
Alors, un extrait de cette séquence. La vidéo en tout dure 15 minutes. Elle a été largement diffusée sur les réseaux sociaux, évidemment. Y a-t-il un islamiste qui tente de mettre des coups de canif dans le pacte républicain, comme le dit la députée Renaissance Maud Bréjon ce matin sur Europe 1
À mon avis, c'est clair, mais en même temps, je ne voudrais pas qu'on globalise. Je veux dire par là, il y a 1000 petits exemples où, en effet, il y a des volontés de porter atteinte au pacte républicain, mais je ne voudrais pas, comme certains le font par simplisme, consister à dire que l'immigration est la cause de tout. Hein.
Oui.
Deuxième élément, j'ai pu voir avant de venir, Céline, que cette femme a avoué en riant qu'elle avait fait exprès de manifester cette résistance en riant. Donc
en provocation, quoi.
Un défi, absolument. Mais il y en a une multitude en France qui...
Donc pour vous, c'est quoi alors exactement, si ce n'est pas un coup de canif dans le pacte républicain?
Alors, c'est un coup de canif dans le pacte républicain, mais à Strasbourg, il me semble, du propre aveu de celle qui a mis ce coup de canif, que c'était plutôt une plaisanterie saumâtre qu'une volonté politique de porter atteinte au pacte républicain. Mais je suis peut-être trop naïf, paradoxalement.
Paul Melun.
Moi, je crois que ça témoigne quand même ce fait d'une difficulté de positionnement que nous avons en France, notamment à l'égard du voile. Et notre difficulté aussi par rapport à des pays multiculturaliste par essence, comme les États-Unis d'Amérique ou le Royaume-Uni, où là-bas, effectivement, vous avez des femmes voilées qui vous servent dans les magasins, où les femmes sont voilées, beaucoup de femmes sont voilées en tout cas, y compris dans les immeubles de la City, dans des grandes entreprises de conseil, voire d'avocature, oui, etc. Par conséquent, nous Français, avec notre modèle laïque universaliste, avec nos droits de l'homme, oui, et avec nos lois, qui reflètent ce paysage philosophique, historique, nous avons une difficulté de positionnement. Et je pense qu'effectivement, les islamistes s'engouffrent dans cette difficulté, s'engouffrent dans nos doutes, s'engouffrent dans nos ambiguïtés pour nous faire passer pour d'odieux islamophobes. Et qu'il y a là derrière une stratégie profonde, je dirais, de déstabilisation de la France. Alors cette jeune femme, je ne sais pas, je ne la connais pas, je ne sais pas, elle, si vous voulez, les velléités politiques ou militantes qu'elle peut avoir.
Elle se présente comme une musulmane inspirante adhéré au hijab.
Voilà, bon, c'est toujours très difficile, si vous voulez, de faire d'un cas précis, comme là j'ai vu que ça avait beaucoup fait de bruit sur les réseaux sociaux, de ce cas précis-là, un enseignement. En revanche, je pense que ce cas-là est intéressant parce qu'il nous montre à quel point, effectivement, y compris dans le secteur privé, un employeur, y compris dans les services publics, quelqu'un qui est responsable aux affaires familiales ou quoi, comment appréhender cette multiplication du voile, cette multiplication de l'expression visible de l'islam dans notre société. Je pense que nous ne savons pas nous y prendre.
C'est d'autant plus choquant lorsque le commerçant peut s'appuyer sur la loi de 2016.
Alors, on va en parler
qui
dans
lui donne totalement raison.
La loi du 8 août 2016, on va en parler dans quelques instants, mais avant, on va écouter Chantal qui nous appelle, qui nous écoute dans le Val d'Oise. Bonjour Chantal.
Oui, bonjour, bonjour tous les trois.
Merci d'être avec nous en direct dans Europe 1 13h. Alors, c'est un sujet qui vous a fait réagir.
Oui, moi je réagis parce que là, je pense que cette jeune fille n'est pas venue toute seule avec son idée de venir contester dès le matin. Elle est venue en sachant exactement ce qu'elle faisait. Et c'est une façon d'entrer peu à peu dans notre vie, dans les règles de ce qui fait notre civilisation, ce qui fait la France. Et peu à peu, de nous habituer à voir dans les magasins, dans les écoles, c'est comme ça pour les sorties d'école. Et il est temps, je pense qu'il est temps que l'État prenne une règle, vote des lois, décide que ça on a le droit, ça on n'a pas le droit, on fait sa religion à la maison, et dans la rue, dans l'espace public, dans les
entreprises. Il y a déjà des lois qui existent, Philippe Vigère. Vous pouvez peut-être répondre à Chantal.
Chantal a d'autant plus raison que, malgré les lois, il y a des résistances et des oppositions qui continuent à se manifester, comme si en réalité l'état de droit français n'était pas un bouclier véritable pour certains.
Chantal.
Je pense que là, justement, c'est peu à peu, on met le pied dans la porte. Donc, on voit si c'est accepté. C'est comme les enfants, quand ils résistent à l'autorité de leurs parents. C'est peu à peu, on insiste. Et après, quand on a mis le premier pas, si elle est acceptée là, la fois d'après, elle dira « j'ai été acceptée dans tel magasin ». Moi, à qui je pense là? C'est au monsieur, au gérant de ce magasin, qui va perdre son boulot. Parce qu'on dira qu'il a peut-être été
Pour l'instant, le groupe Geox n'a pas encore réagi officiellement à cette affaire, hein.
Et moi, je pense que tout le monde doit réagir. L'État, les députés, il faut qu'il y ait une loi qui soit votée, disant que dans l'espace public et dans un magasin, c'est le patron qui décide de comment on est habillé. Si vous venez, je vais vous dire un truc simple, si vous venez avec une plume sur la tête dans un magasin, on ne va pas vous accepter. Alors, sur la tête, c'est ce qu'on peut faire de plus léger.
Oui, c'est léger.
Mais bon.
Non, mais c'est valable pour tous les signes religieux, de toutes les manières. Si on a une croix, on ne peut pas non plus.
Voilà. Pour les signes religieux et pour tout ce qui est bizarre fait pas dans un magasin ou dans un endroit où on reçoit le public. Si vous êtes dans un bureau de poste, et vous devez accepter fait qu'en France, on se voile pas et qu'on ne voile pas sa face. Et en fait, c'est la même chose pour tous. C'est un petit peu d'entrisme. Et moi, je pense qu'on doit prendre des décisions au niveau de l'État.
Merci Chantal pour ce témoignage et continuez à nous écouter dans le Val d'Oise. Et nous, on reste ensemble, bien sûr, dans quelques instants. On poursuit le débat autour de cette affaire du côté de Strasbourg avec Paul Melun, avec Philippe Bilger et avec vous, auditeurs d'Europe 1, 01 80 20 39 21. À tout de suite.
De 13h à 14h, vous écoutez Céline Géraud sur Europe 1.
Europe 1, le journal permanent.
À 13h32 sur Europe 1 avec vous, Céline Géraud.
Le gérant d'un magasin Geox à Strasbourg, menacé après avoir refusé une intérimaire voilée. Suite à la diffusion de la vidéo, nombre de commentaires haineux ont déferlé sur les réseaux sociaux. D'après la loi française, l'employeur privé est en droit d'interdire le port de certains vêtements, notamment dans le secteur du commerce, selon certaines conditions. Lancement d'une mission d'inspection sur les violences sexuelles dans les armées en France. Annonce du ministre des Armées, Sébastien Lecornu, après une série de témoignages de militaires publié récemment dans les médias. Désormais, chaque fois qu'il existe une suspicion de viol ou d'agression sexuelle présentant un caractère suffisant de vraisemblance, la personne mise en cause sera systématiquement suspendue de ses fonctions. C'est le ministre qui le dit dans une tribune commune avec la secrétaire d'État aux anciens combattants, Patricia Mirales. 9 policiers blessés dans une course-poursuite en région parisienne. Les policiers étaient à la poursuite de 3 auteurs d'un homejacking dans l'Essonne. Plusieurs policiers ont ensuite été percutés par une voiture à Maison-Alfort. 3 hommes ont été interpellés. Les Français doivent s'abstenir de se rendre en Iran, au Liban, en Israël et dans les territoires palestiniens. Recommandation du ministre des Affaires étrangères. Stéphane Séjourné a également décidé le retour des familles des agents diplomatiques de Téhéran, ainsi que l'interdiction des missions de fonctionnaires français dans ces pays à l'issue d'une réunion de crise. Enfin, le gouvernement veut que les locataires trop riches quittent leur logement social. Le ministre délégué au logement, Guillaume Kasbarian, a affirmé que plus de 8% des locataires de HLM ne seraient plus éligibles à un logement social s'ils en demandaient un aujourd'hui.
Il est 13h33 sur Europe 1, la suite d'Europe 1 13h avec vous Céline Géraud, et vous poursuivez le débat aujourd'hui avec l'écrivain et essayiste Paul Melun et le magistrat honoraire et président de l'Institut de la Parole, Philippe Bilger.
Et on continue à parler de cette affaire de Strasbourg, de ce magasin Geox. Je rappelle, le gérant a refoulé une jeune femme intérimaire qui s'était présentée voilée pour travailler dans la boutique. Je précise, c'est d'ailleurs notre correspondante à Strasbourg, Mélina Fachin, qui le disait tout à l'heure, que cette intérimaire était déjà venue dans ce magasin, venue travailler pour une mission ponctuelle sans son voile, et elle est revenue délibérément avec son voile. Donc on rejoint ce que vous disiez, Philippe, la provocation. En attendant, au niveau de la loi, juridiquement, est-ce que le gérant était dans son droit?
Moi, si je me souviens bien de la formulation de la loi de 2016, certes, elle ne formule pas une interdiction claire et nette, mais elle dit que si le gérant, dans mes souvenirs...
Alors la phrase, je vais vous la donner, c'est: l'employeur privé est en droit d'imposer une tenue vestimentaire ou d'interdire le port de certains vêtements, notamment dans le secteur du commerce.
Là, on est vraiment... secteur du commerce, s'il considère que c'est en quelque sorte contre-productif. Alors... bien sûr, s'il y avait une action, je crois que ça serait discuté, tout cela. Mais je considère que le commerçant, à partir d'une application honnête de la loi de 2016, est tout à fait dans son droit. D'ailleurs, je rappelle que cette personne, vous l'avez dit, Céline, était déjà venue sans voile, et elle est revenue sans voile, et elle a avoué qu'elle a vécu cela comme une plaisanterie saumâtre, au détriment du commerçant.
Alors, depuis la loi du 8 août 2016 sur le travail, le règlement intérieur peut contenir une clause de neutralité, notamment en matière d'expression des convictions religieuses, qui peut avoir des conséquences sur les règles vestimentaires. C'est ce que dit cette loi publiée par le ministère du Travail en 2016.
Voilà. Oui, ben voilà qui est assez clair. Je partage tout à fait l'analyse de Philippe. Maintenant, il ne faut pas être dupe, si vous voulez, sur la finalité. Et ce que nous explique votre correspondance à Strasbourg est très important. C'est-à-dire qu'elle est revenue délibérément, elle est venue voilée. Et si vous voulez, c'est toujours un peu la même chose, en fin de compte. Dans pas mal d'affaires similaires, il y a une volonté de tester un certain nombre de limites. Et du moment que l'interlocuteur en face fait preuve de fermeté dans les limites par rapport à l'expression visible de la religion, en l'occurrence l'islam, eh bien là, s'ensuit une sorte d'attaque groupée, de fatwa, contre la personne avec laquelle la personne a interagi. En l'espèce, le gérant de ce magasin de chaussures. Le gérant du magasin de chaussures se trouve sous le feu d'une violence verbale inouïe, violence verbale qui, on l'a vu malheureusement, s'est parfois transformée en violence physique. La méthode est implacable, elle a vocation à terroriser toutes celles et tous ceux qui, face à l'expression visible de l'islam et de l'islam politique, pourrait constituer un obstacle pour les dissuader de redevenir un obstacle à d'autres reprises ou pour dissuader d'autres d'être un obstacle à l'expression et à la contagion de l'islam politique en Europe. Mmh. La façon d'opérer est extrêmement efficace parce qu'elle permet, si vous voulez, de placer un halo de terreur tout autour d'une société qui a envie d'exprimer des principes de liberté fondamentale, d'humanisme, en l'espèce de refus du sexisme et d'égalité entre les hommes et les femmes concernant le voile, par exemple. Mmh. Et toutes ces limites-là ont vocation à être, si vous voulez, mises à l'épreuve, rudement, durement, par les tenants de l'islam politique sous toutes ces manifestations. Mmh.
Alors, on était à Strasbourg, on va maintenant aller à Bordeaux sur cette attaque au couteau. Cette fois, c'était mercredi soir. La procureure de Bordeaux a confirmé que l'agression est bien en relation avec la consommation d'alcool des victimes. De victimes, je le rappelle, d'origine algérienne. Alors, je vous propose tout de suite d'écouter justement la procureure de Bordeaux.
L'audition de M. Saleh Karat à l'hôpital a permis de recueillir ses premières déclarations. L'agresseur, qu'il ne connaissait pas, se serait approché de son ami, Rachid Bouave, et s'en serait pris à lui avant de leur reprocher à l'un et à l'autre, dans un français approximatif, de boire alors que c'était l'Aïd. Les deux amis lui répondaient « ça ne te regarde pas » et à ce moment-là, l'auteur leur assénait des coups de poing. Un nouveau témoignage fait état d'une première altercation juste avant les faits, suivi de violences entre l'assaillant et deux autres individus pour un motif a priori similaire. S'en serait suivi alors un coup de poing et un coup de coude avant que l'agresseur n'exhibe un couteau en leur demandant de venir se battre. Il serait finalement parti et aurait poursuivi son chemin en direction du miroir d'eau.
Alors ce qu'on sait, Philippe Bigère, c'est que cet assaillant était visiblement sorti avec l'intention de s'en prendre à des personnes consommant de l'alcool, des musulmans qui consommeraient de l'alcool le jour donc de l'Aïd el-Fitr, cette fête qui célèbre la fin du jeûne du Ramadan. Alors elle n'a pas été qualifiée d'acte terroriste, mais c'est un motif religieux.
Absolument, et cette affaire au sujet de laquelle je trouve que le maire de Bordeaux est un peu léger, en vantant de n'avoir pas armé sa police municipale avec des armes létales, me fait penser à celle dont on a déjà parlé, Céline, qui, pour ce professeur qui voit reprocher de boire un verre d'eau dans une classe, et l'élève lui dit « mais arrêtez de boire » et elle accepte d'obtempérer à cette injonction. Il y a une multitude de volontés d'instiller dans notre vivre ensemble, qui a ses règles, ses principes, sa liberté, sa tolérance, des mœurs qui n'ont rien à voir avec les nôtres.
Alors, l'agresseur, je le précise aussi, était décrit comme porteur d'un keffieh qui couvrait son visage et ne laissait voir que ses yeux. Et il aurait donc reproché à ces deux Algériens de boire de l'alcool, de consommer de l'alcool, Paul Melun.
Et cela répond à la même logique et à la même démonstration que nous avons fait sur l'affaire précédente. Les deux affaires n'ont pas grand-chose à voir sur la forme, mais sur le fond, elles sont mues par une même volonté de certains représentants de l'islam politique ou du fanatisme religieux, d'imposer un certain nombre de codes, de normes et de valeurs à d'autres. Là, en l'espèce, les premières victimes dans l'attaque de Bordeaux, ce sont eux-mêmes des musulmans. Puisque, si vous voulez, il y a là un reproche de la part de musulmans, d'un musulman intégriste, vis-à-vis de musulmans qui, eux, profitent de leur existence, de la façon dont ils l'entendent dans un pays libre. Et face à eux, ils sont confrontés à la terreur. Et cette terreur, donc ça fait la boucle avec ce qu'on dit tout à l'heure, cette terreur s'adresse non seulement aux Français, quels qu'ils soient, quelle que soit leur religion et quel que soit le temps de l'année, mais aussi et particulièrement, on l'a vu dans l'affaire de Samara ou dans l'affaire de Chemseddine à Viry-Châtillon, on s'en prend aussi aux musulmans qui seraient tentés de s'assimiler ou d'avoir des codes sociaux, comportementaux qui conviennent et que l'on appelle vulgairement vivre à l'occidental. Et la jeune Samara, on lui reproche de vivre à l'occidental, donc on la tabasse, on la roue de coups.
C'est ça.
De la même manière, le jeune Chemseddine, il parle à une fille, et parler à des filles, y compris dans des termes sexualisants, eh bien ça, c'est interdit en islam, et donc on va venger et on va l'agresser violemment, jusqu'à le tuer. Et donc, si vous voulez, ça procède de la même logique de terreur, et je me désole que la France au XXIe siècle, ce soit ça, un homme en camis dans les rues de Bordeaux avec une lame de couteau.
Alors faut-il protéger quelque part ces musulmans qui prônent un islam modéré, parce qu'on va le dire, cet assaillant avait un projet, demandeur d'asile, d'origine afghane, 25 ans, on ne parle pas de terrorisme, je le rappelle, mais l'islam de France traditionnellement modéré, défié par des musulmans radicalisés, on est là-dedans.
Mais Malheureusement, Céline, et pardon pour la banalité, dans la vie intellectuelle, dans la vie politique, dans la vie religieuse, il y a une règle constante, c'est ce sont les extrêmes qui dominent les modérés. Et même si les modérés parlaient davantage, malheureusement, cette vision extrémiste de l'islam, dévoyé de mon point de vue, l'emporterait. Et donc,
mais comment faire pour protéger justement les autres, les musulmans qui vivent leur religion
Prendre conscience que il ne faut pas appréhender tout cela d'une manière simpliste en disant c'est l'immigration qui est cause de tout. Je dirais que cette frénésie de la violence s'inscrit d'abord dans une délinquance et une criminalité qui augmente en France, parce que tout simplement, on a une impuissance de l'État. Et par ailleurs, on a des ressorts, des mobiles très particuliers, vous l'avez très bien dit, qui sont religieux. Malheureusement, je crains que à partir du moment où le dialogue singulier ou collectif n'est plus réellement possible, ces êtres sont enquistés dans leurs croyances. Mmh. Eh bien, j'espère qu'on n'est pas condamné, malheureusement, à concrétiser le point de vue si juste à l'époque de Gérard Collomb.
Paul Melun, ce qui interpelle aussi dans la conférence de presse de la procureure, c'est la manière dont elle parle des victimes. Ces deux Algériens qui ne sont jamais nommés, qui n'ont pas de prénom, qui sont presque effacés. Que si ça avait été la petite Samara, effectivement, Zakaria, quand ce sont de jeunes personnes, évidemment, on les identifie, on les sacralise quelque part, le terme n'est peut-être pas le bon, mais en tout cas, là, il y a cette volonté de les faire disparaître,
bien
presque.
Et c'est une erreur, c'est-à-dire que nous avons un devoir dans notre commentaire, un devoir d'humanité et de morale vis-à-vis de toutes les victimes. Et là, en l'espèce, on ne peut avoir qu'une infinie compassion pour la famille de la victime, penser à la victime, penser à l'autre personne qui a été elle aussi violemment agressée. Et cette empathie-là, elle est très importante pour s'exprimer pleinement. Effectivement, je suis d'accord avec vous, il serait intéressant qu'on ait les noms, les prénoms, l'âge, voire une photo, pour que la société, collectivement, puisse mettre une image et un nom sur une victime. Parce qu'une victime, c'est ce qui a permis pendant des décennies, malheureusement, d'invisibiliser l'ultra-violence qui se propageait dans notre pays. Du moment que vous me dites, eh bien, c'était un fait divers, et c'est une rixe qui a mal tourné, et puis il y a trois morts, cette rixe qui a mal tourné, ces trois morts qui font un entrefilé dans la presse, ça c'était il y a 15 ou 20 ans, on ne peut pas se dire derrière que ça révèle quelque chose de la société, voire même exprimer notre empathie vis-à-vis de ces trois victimes. Donc c'est très important qu'il y ait cela, bien sûr.
13h44, on va rester ensemble, Philippe Bilger et Paul Melun, bien sûr. On va prolonger le débat dans quelques instants avec vous, chers auditeurs d'Europe 1. Emmanuel Macron qui balaie l'hypothèse d'une hausse des impôts et d'un désaccord avec Bruno Le Maire, on va en parler. Et puis, la fin du logement social à vie pour certains ménages. On en parle aussi, 01 80 20 39 21, tout de suite sur Europe 1.
13h à 14h, Céline Giraud vous informe sur Europe 1. Europe 1 13h.
13h46 sur Europe 1, la suite d'Europe 1 13h avec vous Céline Giraud et vos deux chroniqueurs du jour, l'écrivain et essayiste Paul Melun et le magistrat honoraire et président de l'Institut de la Parole, Philippe Bilger.
Et on va maintenant parler de ce déplacement à Bergerac. Hein. C'était jeudi, Emmanuel Macron qui en a profité pour fermer une nouvelle fois l'hypothèse d'une hausse de nos impôts et ce malgré l'appel d'une partie de la classe politique à revenir sur cette promesse pour réduire le déficit public. Il s'est exprimé sur le sujet, écoutez.
On doit en responsabilité répondre à ce choc conjoncturel. Et donc la ligne, elle est simple, elle a été réaffirmée. Un, on garde le cap. Plein emploi, réindustrialisation, réarmement de nos services publics. Deux, on ferme tout de suite l'hypothèse de dire qu'on va régler ce choc conjoncturel par plus d'impôts. Maladie française, ça enlèverait de la confiance. Garde la confiance des ménages, des entreprises, de nos partenaires. Trois, on est responsable. Ce choc conjoncturel, on doit y répondre de manière appropriée et tout de suite. Ça a été les premières économies sur le financement de l'État. Et c'est deuxième partie, après le même taux d'effort d'économie, pour tenir un déficit de 5,1 cette année.
Voilà Emmanuel Macron hier à Bergerac. Alors on se demande comment il va faire pour réduire ce déficit, Emmanuel Macron, s'il n'augmente pas les impôts.
C'est tout le défi. C'est-à-dire que là, l'extrait que vous avez diffusé, il est intéressant. Parce que moi, pour une fois, je vais vous dire du bien du président de la République. Quand il parle de réindustrialisation, par exemple, de la production, de l'emploi, je peux être que d'accord avec lui. De fait, si on augmente notre croissance, donc notre PIB, via un certain nombre d'investissements pour les emplois productifs, via un certain nombre d'investissements pour le retour à l'emploi, etc., de fait, on va remettre de l'essence dans la machine, si je puis a employé cette expression, et eh bien le déficit va mécaniquement se réduire puisque les recettes de l'État vont être augmentées par la production. Donc si le président de la République passe par là, je suis d'accord. Maintenant, pour le moment, ça sonne aussi un peu comme des vœux pieux parce qu'il explique tout cela, mais la traduction politique, qu'est-ce que ça a été? Ça a été de nous parler de l'assurance chômage,
oui,
qu'on a présenté comme l'alpha et l'oméga de la réduction de notre déficit. Or, la réduction de notre déficit, c'est pas que ça. On en parlait à l'instant, c'est une grande et belle politique économique autour de la production et de la réindustrialisation. Comment on réindustrialise et comment est-ce qu'on protège nos industries si on fait pas de protectionnisme?
Mm-hmm.
Là, je comprends pas le Macron mondialiste par rapport au Macron qui veut faire du produire en France, le Macron montebourrien, pourrait-on dire. Donc, je pense qu'il y a là une contradiction entre ces deux facteurs. Et puis ensuite, sur les impôts, le président de la République dit qu'il ne veut pas augmenter d'impôts, ok. Mmh. Pour le moment, il a baissé les impôts de certains, les plus riches, notamment sur l'ISF, il a supprimé l'impôt sur la fortune immobilière, sur la fortune sur les valeurs mobilières et non immobilières, et il a fait la flat tax. Peut-être qu'il pourrait revenir là-dessus, ça pourrait être intéressant. Or, il ne veut pas taxer ce qui s'apparente à la finance. Il s'est aussi montré opposé, notamment en Europe, à une taxe Tobin.
Ouais.
Vous savez, cette taxe sur les transactions financières. Donc, tout ce qui s'apparente à une taxation de la finance, il ne veut pas. Il dit qu'il ne veut pas taxer les ménages pour le moment. Moi, je demande à voir et je suis un peu méfiant.
Philippe Bilger, alors, l'expression maladie française, parce qu'il a employé cette expression
absolument.
En disant les impôts, la hausse des impôts, cette maladie française, qu'est-ce que vous en pensez?
Alors,
il a raison de l'utiliser
il me semble, Céline, sous le contrôle de Paul, le vôtre, et de tous ceux qui connaissent véritablement l'économie, je crois qu'il a raison de ne pas vouloir augmenter les impôts. Mais pour le reste, il y a beaucoup d'injonctions dans les propos du président qui relèvent des vœux pieux. Je pourrais parler, l'école doit demeurer un sanctuaire. Il l'a dit dans le même mouvement et il développe en disant c'est uniquement les recettes qui sont sous-estimées. Mais moi, ce qui me frappe, et là, peut-être ai-je tort de mettre de la psychologie dans l'économie, ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'on sent que les principes économiques chez le président à l'heure actuelle sont très largement inspirés par des détestations personnelles.
C'est-à-dire
je veux dire par là que derrière sa volonté de maintenir des fondamentaux sans accepter la discussion contraire, il y a probablement son hostilité à l'égard de Bruno Le Maire.
Qu'il a balayé, il a dit non, tout va bien dans la Maison
mais
Bleue.
Mais n'empêche que Céline, la volonté de donner l'impression qu'il agit encore, alors qu'en 2027 il ne sera plus là, de damer le pion à Bruno Le Maire qui l'agace au plus haut point, altère un tout petit peu ce que la rationalité économique chez lui devrait nous inspirer.
Paul Melun.
Philippe a raison, il y a à mon avis, et ça s'ajoute à la complexité de notre discussion et de notre réflexion sur le fond de la politique économique du président, il y a aussi des enjeux de politique politicienne, la volonté parfois de ne pas prendre aussi des propositions qui par exemple viendraient des LR ou de la gauche sur d'autres sujets par dogmatisme ou pour dire qu'il reste centré sur sa majorité, etc.
Il garde le cap, etc.
Je crois que cette tambouille politicienne dessert le fond du propos. Et j'ajoute qu'un autre point qui est rarement exploité ou plutôt souvent est un vœu pieux aussi et qui pourrait contribuer à réduire notre déficit, c'est le train de vie de l'État. C'est la débureaucratisation qu'il faudrait mettre en place de ce pays. C'est le millefeuille territorial que nous avons avec
les collectivités. C'est pour ça qu'il a évoqué...
Et là, il y a du travail.
Voilà, le licenciement des fonctionnaires. Voilà, c'est des petites pastilles qu'il distille.
Et surtout, éviter la motion de censure.
Absolument.
Ah oui, c'est ça. Donc,
ça t'as explique beaucoup ça,
c'est vrai.
De choses.
C'est vrai, il a le spectre de la motion de censure des LR qui pourrait... complètement rebattre les cartes, voire le pousser à la dissolution, ce qui est complètement inenvisageable.
Et sur l'utilisation de la maladie française, ce terme qu'il a employé à plusieurs reprises. C'est assez surprenant.
Céline, à une certaine époque, quand j'étais en pleine magistrature, on disait que la fraude fiscale, c'était le sport national français.
Oui.
Eh bien, il faut croire qu'augmenter les impôts, ça l'est peut-être sur un autre plan.
Alors, autre annonce qui fait la une aujourd'hui, c'est le gouvernement qui compte mettre fin au logement social à vie pour certains locataires. Alors, la mesure sera inscrite dans le projet de loi logement qui sera présenté en mai, le gouvernement qui souhaite donc que les bailleurs sociaux réexaminent finalement régulièrement la situation de leurs locataires, qui changent parfois effectivement d'orientation professionnelle, qui gagnent davantage de revenus et qui continuent à occuper ces logements. On le rappelle, il y en a un peu plus de 5 millions en France et c'est pas suffisant, Philippe Bilger. Que pensez-vous de cette idée d'inscrire dans la loi désormais cette règle?
Évidemment, d'abord, je trouve que le recours systématique à la loi est un peu agaçant en France. On donne l'impression, parce qu'on a fait voter une loi, qu'on a accompli une action, ce qui n'est pas forcément le cas. Mais deuxième élément, d'une certaine manière, que le gouvernement affronte des problèmes réels et tente de battre en brèche une espèce d'égalité absurde qui dure toute une vie alors que les revenus ont changé, je trouve que c'est assez courageux, comme ce qu'a dit le ministre Guerini sur la fonction publique. Mais est-ce que ce sera mis en œuvre? Je n'en sais rien.
Vous n'êtes pas sûr, Paul Belin.
En tout cas, c'est vrai que le sujet de la rotation des logements sociaux est un bon sujet. Et qu'effectivement, si vous avez des personnes qui, à un moment donné, ont une hausse de revenus significative et durable, il ne s'agit peut-être pas d'enlever les gens de leur logement social si tout à coup, par chance, ils font un bon mois ou six bons mois. Il faut définir ça. Mais effectivement, qu'il y ait une rotation, parce qu'il y a énormément de demandes qui sont en attente vis-à-vis des logements sociaux.
Il y a 1,8 million de ménages qui candidatent actuellement. Et il y a 5,2 millions de logements sociaux, mais qui sont occupés avec très peu de mobilité, finalement.
Bien sûr. Donc, il faut penser à tous ces ménages qui ont besoin de logement social. J'ajoute qu'il y a peut-être aussi à la fois un besoin de construction d'un certain nombre de logements sociaux et aussi de restauration de bâtiments qui sont non occupés, qui sont vacants. Ça, c'est très important. Et qu'il faut aussi penser au logement intermédiaire. On en parle moins, mais dans le logement social, il y a aussi le logement intermédiaire, notamment pour les classes moyennes. Parce que effectivement, on se soucie souvent, et c'est bien légitime d'ailleurs, des populations les plus précarisées pour leur trouver un logement. Mais aujourd'hui, si vous appartenez à la classe moyenne et que vous voulez vous loger dans une grande métropole, je pense par exemple à Paris, c'est très difficile. Mmh. Même si vous avez un salaire correct à deux ménages, un ménage par exemple un couple, et que vous avez un salaire correct, pas moi, de 4 000, 4 500 euros ou 5 000 euros à deux, ce qui est un bon salaire en province, à Paris, pour vous loger avec ce prix-là, pour peu que vous ayez des enfants, c'est très difficile. Donc il faut aussi que ces ménages-là, ils puissent avoir accès à des logements pas trop loin de leur travail et leur éviter d'avoir une heure de transport en commun à faire ou de venir en voiture. En plus, quand on voit comment Madame Hidalgo a fait son plan de circulation, quand vous arrivez du Val-de-Marne et que vous venez travailler en région parisienne, je peux vous dire que c'est quand même du boulot. Donc il faut penser à tout ça. Et il faut aussi avoir effectivement cette vision à double entrée. C'est-à-dire à la fois une vision sur les rotations pour éviter qu'il y ait des personnes qui profitent.
Il y a 8% à peu près
longtemps.
Du parc HLM qui est occupé par des personnes qui gagnent trop.
Ces 8%.
Voilà. Et après, il y a effectivement toute la problématique des communes qui doivent avoir un taux de 20 à 25% d'habitation à loyer modéré. Là aussi, toutes les 3 ans, elles ont l'objectif de remettre à niveau sous peine d'une amende, qui est une amende qui, je le rappelle, ont rapporté à l'État 250 millions d'euros en 2023.
Et certaines communes, j'ai cru le comprendre, préfèrent payer des amendes que
plutôt que de construire des logements sociaux. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, Philippe Bilger?
Je trouve, là, pardon, de faire dans une contradiction apparente, à la fois je regrette que les communes ne respectent pas la loi.
Alors, Provence-Alpes-Côte d'Azur, plus mauvais élève. 95 communes carencées sur 195 soumises à un bilan.
Il y a une forme de rationalité dans cette perversion, parce qu'on comprend bien pourquoi ils ne respectent pas, et c'est scandaleux.
Pourquoi ils ne respectent pas?
Je pense qu'ils considéreraient que les logements sociaux viendraient défigurer le visage magnifique de Midi. Je pense que c'est ça.
On peut faire des logements sociaux
social ou sécuritaire.
Cacher ce logement social que je ne saurais voir.
C'est quoi, c'est architectural ou selon vous c'est plus sociologique, plus profond?
Les deux, sociologique, architectural. Il ne faut pas que la richesse soit gênée par des visions malfaisantes.
Ouais, Paul Bilger.
Oui,
Paul Bilger,
si
Paul Melun.
Ça, on va prendre mon lien de parentalité avec Philippe.
Moi, j'étais très volontaire.
C'est vendredi. C'est la fin de semaine, on est tous fatigués.
Philippe Melun. Père spirituel. Non, je pense que.
Malheureusement.
Par l'âge, par la pensée. Non, je pense qu'il y a un vrai enjeu, si vous voulez, à ne pas être dans la contrainte des communes qui ne veulent pas accepter de logement social, mais à se poser les questions, effectivement, comme le faisait Philippe, de pourquoi est-ce qu'elles refusent le logement social. Et de faire en sorte que pour que le logement social soit mieux accepté, qui soit plus harmonieux avec le bâti local. Moi, je suis un grand défenseur, un grand ami du patrimoine. Effectivement, si à côté d'un château du 15e siècle ou d'une église du 3e, du 13e siècle, on vous met une barre HLM, je ne suis pas content. Par contre, si jamais ces logements sociaux y sont, moi j'ai vécu en Suède, il y avait des logements, si vous voulez, qui étaient plutôt des logements pour les personnes vraiment très défavorisées. avez, notamment en banlieue de Stockholm, où vous aviez des 3-4 étages oui. avec des jardins verdoyants, etc. Si ça, c'est les logements sociaux, je suis d'accord. Ouais. Et ensuite, sur les questions de la sécurité ou des questions de sociologiques, là, c'est aussi, si vous voulez, les questions d'assimilation et d'intégration, les questions sécuritaires, les questions de services publics de proximité, d'école, etc. Et aussi d'équilibre. C'est-à-dire qu'une commune de, je sais pas, je dis n'importe quoi, 10 000 habitants, ce qui n'est pas énorme, si vous mettez tout à coup comme ça énormément de logements sociaux et qu'arrivent des personnes qui sont ramenées d'un ouais. certain nombre de grandes villes, etc., ça va déséquilibrer l'écosystème local. Donc il faut que ce soit bien géré aussi au niveau du nombre pour pas que ça crée des déséquilibres. Mais le problème, c'est que bien souvent, toutes ces considérations que je cite là, en vérité, tout le monde s'en fiche. On impose, on amène du logement social en masse, les gens ne sont ouais. pas contents et c'est le tonneau des Danaïdes.
Bon, ben vous allez bosser au ministère du Logement.
Mais je vais
bientôt,
envoyer ma candidature
à
Emmanuel Macron, on va voir ce qu'il en dit.
Bah, le comte sait qu'il pourrait faire aussi bien.
Ça. Merci beaucoup, Paul Melun, Philippe Bilger, pour ce décryptage. C'est déjà fini,
c'est pas
ça passe tellement
vous.
Vite.
Franchement,
et on remet ça la semaine prochaine, bien
ah
sûr.
Je dès 13h. Je l'espère.
Merci à tous nos auditeurs aussi, très nombreux à nous appeler aujourd'hui, Europe 1 13h, et à très vite, à la semaine prochaine.
C'était Céline Giraud sur Europe 1 et un très bon début d'après-midi.